Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Comme d'habitude, nous allons commencer notre émission par le journal suivi de commentaires. Et après, vous pouvez également écouter l'histoire d'aujourd'hui et la mise au point. La rubrique suivante, magazine culturel, et ensuite l'Indonésie en couleur. Avant de terminer cette émission, nous allons vous présenter des chansons indonésiennes. Voilà notre programme pour ce soir. Écoutez maintenant le journal suivi de commentaires.
La voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir à toutes et à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. L'Indonésie organisera une réunion avec 5 pays pour discuter de la prévention du terrorisme. L'Indonésie a condamné la fusillade de l'imam de la mosquée Al-Aqsa. L'Indonésie et les Pays-Bas ont convenu la coopération de la lutte contre le terrorisme. Le vice-président a inauguré le projet des eaux potables à Umbulan, Java Est. Le commandant en chef de l'armée nationale indonésienne, ou TNI, a été décerné la médaille d'honneur de la Malaisie. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. L'Indonésie organisera une réunion pour discuter de la question du terrorisme dans la région avec 5 pays voisins. La réunion intitulée Réunion de coopération sous-régionale sur la lutte contre le terrorisme et le terrorisme transfrontalier, qui aura lieu le 29 juillet 2017 à Manado, Sulawesi du Nord. La réunion sera assistée par l'Indonésie et 5 pays sous-région, à savoir la Malaisie, les Philippines, le Brunei Darussalam, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Chaque pays sera représenté par les fonctionnaires chargés de la question du terrorisme, entre autres le ministre coordinateur des Affaires politiques, Justice et Sécurité, M. Wiranto, le ministre indonésien des Affaires étrangères, Mme Retno Marsudi, le procureur général de l'Australie, George Prentice, et le ministre des Affaires étrangères de la Nouvelle-Zélande, Gary Brownlee. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, M. Arman Atanasir, lors d'une conférence de presse à Jakarta le jeudi 20 juillet 2017, a déclaré que la réunion dans le contexte de la montée de la régionalisation et la croissance des groupes terroristes affiliés à l'État islamique d'Irak et la Syrie, ou ISIS, dans la sous-région. En termes de résultats, une déclaration conjointe de la réunion, mais notamment est un bon forum pour discuter de diverses questions liées au financement, sur la façon dont nous menons une stratégie de lutte contre le terrorisme et comment peut-on prévenir la régionalisation des groupes terroristes. Arman Atanasir a dit que la crise à Marawi, les Philippines du Sud, serait également l'une des questions abordées lors de la réunion à Manado. La réunion est motivée par une réunion similaire à Bali en août 2016. C'est la réunion internationale sur la lutte contre le terrorisme, le sommet de la lutte contre le financement du terrorisme et la réunion trilatérale entre l'Indonésie, les Philippines, la Malaisie à Mani, en juin 2017, un mois après la crise de Marawi. En mars de la réunion à Manado, le ministre Retno Marsudi et son homologue de la Nouvelle-Zélande, Brownlee, tiendront une rencontre bilatérale. Ils discuteront des efforts pour intensifier la coopération économique, y compris l'ouverture de nouveaux accès aux marchés pour les produits de fruits et la coopération de l'énergie, notamment la géothermie. Les deux ministres des Affaires étrangères augmenteront aussi des contacts interpersonnels par la coopération dans l'éducation et le terrorisme. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, M. Armanata Nasir, a déclaré que l'Indonésie était concernée et a également condamné la détérioration de la situation dans le complexe Al-Aqsa et le tournage de Sheikh Ikrimah Sabri, l'imam de la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem-Est. Armanata Nasir, lors d'une conférence de presse à Jakarta le jeudi 20 juillet 2017, a expliqué que la fusillade a eu lieu lorsque les forces de la sécurité israélienne ont forcé la dissolution des gens qui font des démonstrations sur les fermetures et les restrictions concernant l'accès des musulmans à la mosquée Al-Aqsa. L'Indonésie a également condamné les mesures de l'appareil de sécurité israélienne qui limite l'accès au complexe Al-Aqsa, qui ne correspond pas au droit des musulmans d'accomplir librement le culte. L'Indonésie insiste l'Israël à ne pas changer le status quo de complexe Al-Aqsa afin que la mosquée et le dôme du rocher restent un lieu sacré pour être accessible à tous les musulmans.
Tentunya Indonesia sangat mengecam ya adanya penembakan.
L'Indonésie condamne fermement le bombardement de l'imam de la mosquée Al-Aqsa. Nous, en tant que pays avec la plus grande population musulmane, devons exprimer notre condamnation. Nous sommes préoccupés parce que la situation là-bas continue de baisser et nous sommes également préoccupés pour que la mosquée soit le status quo. La ministre indonésienne des Affaires étrangères a fait une conversation par téléphone avec son homologue de la Jordanie pour discuter de la situation à Al-Aqsa, mercredi soir. Dans la communication, Mme Retno Marsudi a appelé les pays de la région et les pays de l'Organisation de la coopération islamique à insister à l'Israël pour rétablir immédiatement la stabilité et la sécurité dans le complexe Al-Aqsa. Vous écoutez toujours le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. L'Agence nationale de lutte contre le terrorisme, ou BNPT, a signé un protocole d'accord sur la lutte contre le terrorisme avec le coordinateur national pour la sécurité et la lutte contre le terrorisme, ou l'Agence antiterroriste des Pays-Bas. La signature a été faite par le chef de BNPT, le commissaire général Suhardi Alius, et le directeur de NCTV, HWM School, témoigné par l'ambassadeur néerlandais en Indonésie, Rob Swarbol, à Jakarta, mercredi. Le chef de BNPT, dans un communiqué de presse jeudi, a déclaré que la lutte contre le terrorisme qui a été faite par BNPT a attiré l'attention des Pays-Bas. Cela est associé à l'Indonésie en tant que pays avec la plus grande population musulmane et les approches utilisées par BNPT dans la lutte contre le terrorisme. L'intérêt de NCTV d'établir la coopération avec BNPT parce que les Pays-Bas ont vu comment BNPT peut traiter les terroristes d'être des anciens terroristes à travers le programme de déradicalisation. L'approche adoptée dans ce programme est trouvée rarement dans d'autres pays, impliquant des ulémas, des appareils de sécurité, des psychologues et des sociologues. Le vice-président indonésien Yusuf Kalla a inauguré la construction du système de gestion de l'eau potable à Umbulan, la région de Pasuruan, Java de l'Est, jeudi. Le projet de système de gestion de l'eau à Umbulan, qui a été initié il y a 40 ans, est l'un des projets clés pour la fourniture des eaux potables et des eaux potables saines pour les habitants de l'est de Java. Le vice-président a déclaré que le système de gestion de l'eau potable à Umbulan, qui a été construit avec le SEMA de la coopération entre le gouvernement et les entités, ces rencontres, les intérêts publics. de la région et du pays, ainsi que les intérêts des investisseurs. Cependant, le gouverneur de Java S. Sukarwo a affirmé que la source des eaux à Umbulan est l'une des sources d'eau potable à la bonne qualité dans le monde. Le commandant en chef de TNI, le général Gatot Nurmantio, a été décerné la médaille d'honneur Panglima Gagah Angkatan Tentara du Royaume Mali. Ce médaille d'honneur a été épinglé directement par Yang Amat Berhormat, le premier ministre de la Malaisie, Datuk Seri Muhammad Najib bin Tun Abdul Razak, à Putrajaya, en Malaisie, mercredi. Le don d'un prix encouragera le commandant en chef de TNI d'intensifier les relations et la coopération entre les deux forces armées. Le communiqué de presse du Centre d'information de TNI a déclaré mercredi le don de ce médaille d'honneur était grâce aux efforts durs du général Gatot Nurmantio de resserrer les relations et la coopération bilatérale entre l'Indonésie et la Malaisie, ainsi que continuer à favoriser et promouvoir l'esprit de la coopération pour la sécurité et l'intégrité des deux pays. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Rani, quelle brochure que tu lis?
Eh bien, Andy, je lis les brochures des sites touristiques d'Indonésie. Il s'avère qu'il est amusant et stimulant. Les paysages sont aussi beaux. Dis donc, quel site dois-je choisir?
Pourquoi pas Joglo Semar? C'est abrégé de trois villes à Java, Yogyakarta, Solo et Semarang. Joglo Semar est l'une des 10 destinations touristiques en Indonésie. Ce n'est pas loin de Jakarta et le centre de Java.
Bien, comme ça, je viendrai à Joglo Semar.
Réalisez votre rêve de passer des vacances à Joglo Semar, Indonésie, en participant au quiz international 2017 de la Voix de l'Indonésie. Répondez aux questions suivantes. 1. Mentionnez des programmes de la Voix de l'Indonésie et quel est votre programme préféré? 2. Dans quel langue de programme écoutez-vous la Voix de l'Indonésie? 3. Dans quelle façon écoutez-vous la Voix de l'Indonésie? 4. Donnez des suggestions pour l'amélioration de la Voix de l'Indonésie. 5. Racontez brièvement ce que vous avez à propos de l'Indonésie. Envoyez, s'il vous plaît, vos réponses avec vos données personnelles, le numéro et la date d'expiration de votre passeport à voiinternationalquiz@voi.co.id avant le 1er août 2017. Bienvenue à l'Indonésie.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, voici donc le commentaire ayant pour le titre « La cessation de soutien à l'opposition de Syrie ». Les États-Unis ont décidé de mettre fin au soutien accordé depuis plusieurs années à des insurgés islamistes modérés qui se sont battus contre le gouvernement du président Bachar al-Assad en Syrie. La fin du programme, effectué secrètement par les États-Unis, est bien accueillie par la Russie. Le président américain Donald Trump a pris la décision après avoir rencontré le président russe Poutine deux fois lors du sommet du G20 à Hambourg en Allemagne les 7 et 8 juillet dernier. Si la première réunion était connue du public, la deuxième réunion était très secrète et vient d'être ouverte aux médias mardi 18 juillet. Le Washington Post a été le premier média à signaler un plan pour arrêter le programme par le président Trump. La Maison-Blanche a finalement confirmé que le président Donald Trump avait tenu deux réunions avec le président Poutine. Initialement, la seconde a été refusée de l'organiser. La confirmation de la réunion a été admise après que les médias aient fortement signalé. Néanmoins, les fonctionnaires de la Maison-Blanche l'ont appelée conversation plutôt qu'une deuxième réunion. Donald Trump lui-même, à travers son compte de Twitter, a même écrit sur de fausses nouvelles sur son dîner avec Poutine. La relation de Trump avec Poutine devient la tension au cours d'un scandale de collusion russe avec l'équipe de campagne de Trump lors de l'élection présidentielle américaine 2016. Le Congrès américain et les enquêteurs fédéraux travaillent sur ces accusations que la Russie a joué un rôle dans les élections présidentielles américaines pour le bénéfice de Donald Trump. Une personne travaillant pour le contre-espionnage russe a admis aux médias sur sa présence à une réunion avec le conseiller senior de Trump et son fils Donald Trump Jr. l'année dernière. On a dit que Trump Jr. a été promis de matériel qui pourrait discréditer Hillary Clinton. Mais le président Trump l'a nié, tandis que le beau-fils de Trump, Jared Kushner, et le président électoral Paul Manafort l'ont admis. Cette réunion témoigne d'une relation non diplomatique entre l'équipe de campagne Trump avec les dirigeants russes. Le président Trump lui-même était moins préoccupé par la réunion. Maintenant, le problème n'est plus une question de Trump et de Poutine, mais le destin du peuple syrien après la cessation du programme de soutien. Bien que les adversaires d'Assad aient perdu leur soutien, la résistance devrait se poursuivre. En mettant fin au programme de soutien pour les groupes d'opposition, il semble que les États-Unis doivent bien reconnaître la sagesse de la Russie dans les affaires syriennes. Quoi qu'il arrive, on espère que la question syrienne sera résolue bientôt et que le pays peut se reconstruire immédiatement. La conférence ministérielle de l'Organisation de coopération islamique à Abidjan, il y a quelque temps, devrait être en mesure d'aider à réduire les tensions en Syrie. Malheureusement, l'Organisation de la coopération islamique ne semble pas avoir pu faire beaucoup pour la paix en Syrie. Chers auditeurs, c'était le commentaire pour ce soir.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Le 21 juillet 1945, la signature de l'accord entre la France et le Vietnam. L'accord de la fin de guerre entre la France et le Vietnam a été signé à la fin de la conférence de Genève, qui a également participé par des représentants des États-Unis, la Grande-Bretagne, la Chine et l'Union soviétique. Cet accord a fait la suite à la défaite des Français au Vietnam en raison d'une forte résistance des soldats vietnamiens dans la bataille de Dinh Bien Phu. Cependant, sous la pression des États-Unis, cet accord a également convenu la division du Vietnam jusqu'en 1956 et l'ordonne que toutes les troupes étrangères ont quitté le Vietnam. Contrairement au contenu du traité, les États-Unis ont envoyé les troupes au Vietnam et soutenu la création de l'État du Vietnam du Sud. Par conséquent, la guerre a éclaté entre l'armée du Nord Vietnam contre les soldats du Sud Vietnam qui ont été soutenus par les États-Unis. Cette guerre s'est terminée en 1975 avec la défaite du Vietnam du Nord et les Américains. Et le Vietnam se réunit dans la République socialiste du Vietnam. Le 21 juillet 1952, la manifestation des populations iraniennes de protester contre le premier ministre de l'Iran. La population d'Iran a tenu une manifestation massive pour protester contre le nouveau premier ministre de l'Iran, Kawa Moussaltana. C'est arrivé après la démission du premier ministre Moussadegh sous la pression du régime du Shah, remplacé par Kawa Moussaltana, qui est un soutenant du Shah Pahlavi et des puissances étrangères. Le nouveau premier ministre de délivrer des politiques qui sont contraires à l'islam. L'un des grands oulémas de l'Iran, Ayatollah Khatami, a publié une déclaration de protestation contre le nouveau premier ministre de l'Iran et la population iranienne a lui soutenu par des manifestations massives dans plusieurs villes. D'abord, le régime Shah passe aux manifestations par la force, mais finalement, il se livre et Moussadegh reconduit dans ses fonctions comme premier ministre. Le 21 juillet 1966, Geminidis a atterri sur la Terre. Geminidis est la 8e mission habitée du programme Gemini et la 14e mission spatiale habitée américaine. En 2010, la capsule est exposée au Cosmosphere Kansas et Centre spatial des États-Unis. Geminidis, après avoir volé pendant 70 heures dans l'espace, finalement atterri sur Terre. Le projet Gemini a été lancé depuis 1962 et se compose de 12 vols. Le but du programme Gemini, entre autres, est de tester l'endurance humaine dans un vol dans l'espace en 2 semaines et améliorer la méthode pour entrer dans l'atmosphère et l'atterrissage. Projet Gemini a été introduction du projet Apollo. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Chers fidèles auditeurs, merci d'être fidèles à notre antenne La Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. C'est le temps maintenant pour nous de vous présenter la mise au point et pour le titre « L'Indonésie ajoutera les troupes de paix mondiale à l'ONU ». L'Indonésie enverra à nouveau des troupes dans des zones de conflit comme une force de paix sous la bannière des Nations Unies. L'Indonésie enverra 1040 soldats cette année. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, après avoir assisté à la séance avec le vice-président Yusuf Kalla, le chef de la police nationale, le général Tito Karnavian, le ministre de la Défense, Ria Mizat Riyakudu, et la ministre des Finances, Sri Mulyani, à Jakarta, lundi le 17 juillet 2017, a dit « Nous espérons que cette année, l'Indonésie a ajouté en notre déploiement amplificatrice des troupes. » Retno Marsudi a expliqué l'envoi de troupes rend l'Indonésie d'être le plus grand pays qui envoie des troupes de maintien de la paix. Auparavant, il y avait 2719 troupes qui ont été envoyées à divers pays en conflit. Si plus tard, de 2719 est ajouté au nouveau déploiement d'un montant de 1040, puis le nombre total de troupes de l'Indonésie a atteint 3759 de 4000 qui sont engagés par l'Indonésie à l'Organisation des Nations Unies. Retno Marsudi a dit l'engagement de l'Indonésie à contribuer aux efforts de paix du monde ont également été transmis par le vice-président Yusuf Kalla aux dirigeants de l'État du sommet des dirigeants des gardiens de la paix à New York aux États-Unis en septembre 2015. Elle a expliqué la zone des forces de maintien de la paix se compose de 800 personnels d'un bataillon composite de TNI, 140 membres de la police nationale d'une forme d'unité de police, puis 100 officiers individuels appelés EPO. En cas d'opération de maintien de la paix, l'Indonésie est le plus grand contributeur à être envoyé, les troupes de maintien de la paix. Jusqu'à présent, nous avons envoyé 2719 de 4000 troupes de maintien de la paix que nous ciblons peuvent être envoyées au moins en 2019. En 2015, M. le vice-président a assisté à la réunion nommée le sommet des leaders sur le maintien de la paix à New York aux États-Unis en septembre 2015. À ce moment, l'Indonésie a réitéré son engagement à augmenter la troupe. Retno Marsudi a affirmé le gouvernement indonésien ne supportera pas les énormes coûts opérationnels des casques bleus qui sont envoyés, parce que l'Indonésie peut demander un coût de remplacement auprès des Nations Unies tous les 3 mois. Il a ajouté que les casques bleus qui ont été envoyés des troupes sélectionnées qui ont reçu une formation spéciale pour parfumer la nation et l'État. Sur Twitter, c'était la mise au point pour ce soir.
L'Indonésie organisera une réunion pour discuter de la question du terrorisme dans la région avec 5 pays voisins. La réunion intitulée « Réunion de coopération sous-régionale sur la lutte contre le terrorisme et le terrorisme transfrontalier » qui aura lieu le 29 juillet 2017 à Manado, Sulawesi du Nord. La réunion sera assistée par l'Indonésie et 5 pays sous-région, à savoir la Malaisie, les Philippines, le Brunei Darussalam, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Chaque pays sera représenté par les fonctionnaires chargés de la question du terrorisme, entre autres le ministre coordinateur des Affaires politiques, Justice et Sécurité, M. Wiranto, le ministre indonésien des Affaires étrangères, Mme Retno Marsudi, le procureur général de l'Australie, George Prendis, et le ministre des Affaires étrangères de la Nouvelle-Zélande, Gary Brownlee. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, M. Arman Atanasir, lors d'une conférence de presse à Jakarta le jeudi 20 juillet 2017, a déclaré que la réunion, dans le contexte de la montée de la régionalisation et la croissance des groupes terroristes affiliés, l'État islamique d'Irak et la Syrie, ou ISIS, dans la sous-région. En termes de résultats, une déclaration conjointe de la réunion, mais notamment est un bon forum pour discuter de diverses questions liées au financement, sur la façon dont nous menons une stratégie de lutte contre le terrorisme et comment peut-on prévenir la régionalisation des groupes terroristes. Arman Atanasir a dit que la crise à Marawi, les Philippines du Sud, serait également l'une des questions abordées lors de la réunion à Manado. La réunion est motivée par une réunion similaire à Bali en août 2016. C'est la réunion internationale sur la lutte contre le terrorisme, le sommet de la lutte contre le financement du terrorisme et la réunion trilatérale entre l'Indonésie, les Philippines, la Malaisie à Mani, en juin 2017, un mois après la crise de Marawi. En marge de la réunion à Manado, le ministre Retno Marsudi et son homologue de la Nouvelle-Zélande, Brownlee, tiendront une rencontre bilatérale. Ils discuteront des efforts pour intensifier la coopération économique, y compris l'ouverture de nouveaux accès au marché pour les produits de fruits et la coopération de l'énergie, notamment la géothermie. Les deux ministres des Affaires étrangères augmenteront aussi des contacts interpersonnels par la coopération dans l'éducation et le terrorisme. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, M. Arman Atanasir, a déclaré que l'Indonésie était concernée et a également condamné la détérioration de la situation dans le complexe Al-Aqsa et le tournage de Sheikh Ikrimah Sabri, l'imam de la mosquée Al-Aqsa, à Jérusalem-Est. Arman Atanasir, lors d'une conférence de presse à Jakarta le jeudi 20 juillet 2017, a expliqué que la fusillade a eu lieu lorsque les forces de la sécurité israélienne ont forcé la dissolution des gens qui font des démonstrations sur les fermetures et les restrictions concernant l'accès des musulmans à la mosquée Al-Aqsa. L'Indonésie a également condamné les mesures de l'appareil de sécurité israélienne qui limite l'accès au complexe Al-Aqsa qui ne correspond pas au droit des musulmans d'accomplir librement le culte. L'Indonésie insiste l'Israël à ne pas changer le status quo du complexe Al-Aqsa afin que la mosquée et le dôme du rocher reste un lieu sacré pour être accessible à tous les musulmans.
Tentunya Indonesia sangat mengecam ya adanya penembakan.
L'Indonésie condamne fermement le bombardement de l'imam de la mosquée Al-Aqsa. Nous, en tant que pays avec la plus grande population musulmane, devons exprimer notre condamnation. Nous sommes préoccupés parce que la situation là-bas continue de baisser et nous sommes également préoccupés pour que la mosquée soit le status quo. La ministre indonésienne des Affaires étrangères a fait une conversation par téléphone avec son homologue de la Jordanie pour discuter de la situation à Al-Aqsa mercredi soir. Dans la communication, Mme Retno Marsudi a appelé les pays de la région et les pays de l'Organisation de la coopération islamique à insister à l'Israël pour rétablir immédiatement la stabilité et la sécurité dans le complexe Al-Aqsa. Vous écoutez toujours le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. L'Agence nationale de lutte contre le terrorisme, ou BNPT, a signé un protocole d'accord sur la lutte contre le terrorisme avec le coordinateur national pour la sécurité et la lutte contre le terrorisme, ou l'Agence antiterroriste des Pays-Bas. La signature a été faite par le chef de BNPT, le commissaire général Suhardi Alius, et le directeur de NCTV, HWM School, témoigné par l'ambassadeur néerlandais en Indonésie, Rob Swarbol, à Jakarta mercredi. Le chef de BNPT, dans un communiqué de presse jeudi, a déclaré que la lutte contre le terrorisme qui a été faite par BNPT a attiré l'attention des Pays-Bas. Cela est associé à l'Indonésie en tant que pays avec la plus grande population musulmane et les approches utilisées par BNPT dans la lutte contre le terrorisme. L'intérêt de NCTV d'établir la coopération avec BNPT parce que les Pays-Bas ont vu comment BNPT peut traiter les terroristes d'être des anciens terroristes à travers le programme de déradicalisation. L'approche adoptée dans ce programme est trouvée rarement dans d'autres pays, impliquant des ulémas, des appareils de sécurité, des psychologues et des sociologues. Le vice-président indonésien Yusuf Kalla a inauguré la construction du système de gestion de l'eau potable à Umbulan, la région de Pasuruan, Java de l'Est, jeudi. Le projet de système de gestion de l'eau à Umbulan, qui a été initié il y a 40 ans, est l'un des projets clés pour la fourniture des eaux potables et des eaux potables saines pour les habitants de l'est de Java. Le vice-président a déclaré que le système de gestion de l'eau potable à Umbulan, qui a été construit avec le SEMA de la coopération entre le gouvernement et les entités, s'est rencontré les intérêts publics de la région et du pays, ainsi que les intérêts des investisseurs. Cependant, le gouverneur de Java Est, Soekarwo, a affirmé « La source des eaux à Umbulan est l'une des sources d'eau potable à la bonne qualité dans le monde. » Le commandant en chef de TNI, le général Gatot Nurmantio, a été décerné la médaille d'honneur Panglima Gaga Angkatan Tentara du Royaume Mali. Ce médaille d'honneur a été épinglé directement par Yang Amat Berhormat, le premier ministre de la Malaisie, Dato' Sri Muhammad Najib bin Tun Abdul Razak, à Putrajaya, en Malaisie, mercredi. Le don d'un prix encouragera le commandant en chef de TNI d'intensifier les relations et la coopération entre les deux forces armées. Le communiqué de presse du Centre d'information de TNI a déclaré mercredi le don de ce médaille d'honneur était grâce aux efforts durs du général Gatot Nurmantio de resserrer les relations et la coopération bilatérale entre l'Indonésie et la Malaisie, ainsi que continuer à favoriser et promouvoir l'esprit de la coopération pour la sécurité et l'intégrité des deux pays. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Rani, quelle brochure que tu lis?
Eh bien, Andy, Je lis les brochures des sites touristiques d'Indonésie. Il s'avère qu'il est amusant et stimulant. Les paysages sont aussi beaux. Dis donc, quel site dois-je choisir?
Pourquoi pas Joglo Semar? C'est abrégé de trois villes à Java: Yogyakarta, Solo et Semarang. Joglo Semar est l'une des 10 destinations touristiques en Indonésie. Ce n'est pas loin de Jakarta et le centre de Java.
Bien, comme ça, je viendrai à Joglo Semar.
Réalisez votre rêve de passer des vacances à Joglo Semar, Indonésie, en participant au quiz international 2017 de la Voix de l'Indonésie. Répondez aux questions suivantes. 1. Mentionnez des programmes de la Voix de l'Indonésie et quel est votre programme préféré? 2. Dans quel langue de programme écoutez-vous la Voix de l'Indonésie? 3. Dans quelle façon écoutez-vous la Voix de l'Indonésie? 4. Donnez des suggestions pour l'amélioration de la Voix de l'Indonésie. 5. Racontez brièvement ce que vous avez à propos de l'Indonésie. Envoyez, s'il vous plaît, vos réponses avec vos données personnelles, le numéro et la date d'expiration de votre passeport à voiinternationalquiz@voi.co.id avant le 1er août 2017. Bienvenue à l'Indonésie.
Des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique Persona Indonesia ou la merveille d'Indonésie. Le sujet aujourd'hui est le tissage de trousseaux. Vous pouvez écouter nos émissions en cours ou bien via www.voi.co.id. Le 15 juillet, les artisans du district de Pecangaan Jepara, Java Central, ont créé un record de musée des records de l'Indonésie, ou MURI, pour fabriquer des tissus tissés trousseaux le long de 217,4 mètres. Non seulement de marquer le record national, ils peuvent aussi marquer le record mondial parce qu'ils ont pu fabriquer du tissu tissé avec les motifs les plus élevés et la plus longue. Les tissus tissés sont fabriqués pendant 3 mois. On espère que le record peut aider la promotion du village de Trousseau comme le centre de l'artisanat du tissu tissé dans quelques régions en Indonésie. Trousseau est le nom d'un village du district de Pecangaan, la région de Jepara, où les artisans habitent dans ce village. Le tissage ikat trousseau est le tissu tissé à partir des fils de pakan ou des fils de lungsin qui ont été précédemment attachés et trempés dans un colorant naturel en utilisant l'outil pour tisser non machine. Le tissu de trousseau peut être utilisé comme des vêtements, les décorations de la maison, etc. Le tissage trousseau a divers motifs tels que le motif rang-rang, rajut, endek, scarf et le motif Kalimantan, etc. Si vous êtes intéressé à porter le tissu de tissage trousseau ou de divers produits fabriqués à partir de ce tissu, vous pouvez visiter le village de Trousseau à Jepara. Tout au long du village, on peut trouver des magasins qui vendent une variété de produits à partir de tissus trousseaux. Le prix par feuille de tissu est très variable, de 135 000 rupias jusqu'à 500 000 rupias pour les tissus de coton et 500 000 jusqu'à 3 millions rupias pour le tissu de soie. Le prix de tissu de tissage trousseau est plus cher que le batik parce qu'il est fait en utilisant le métier à tisser non machine. Chers amis, c'était le magazine culturel de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Merci à tous et à bientôt.
Les couleurs, un programme sur les informations actuelles.
Bonsoir à tous, rencontrons-nous dans l'Indonésie en couleur. Pour l'édition ce soir, nous vous invitons à connaître le batik de Banten. Le batik est l'un des produits de tissu de cuisine de l'Indonésie qui était connu dans le monde. Mais en fait, il y a beaucoup de types de batik en Indonésie. Divers motifs qui sont produits sont également en conformité avec la région d'origine de ce batik. Comme d'autres régions d'Indonésie, Banten a aussi un tissu de batik qui est les caractéristiques distinctives de la région. Batik est un artisanat qui a une grande valeur artistique et devenu la partie de la culture l'Indonésie, notamment Java depuis longtemps. Les femmes javanaises dans le passé font leurs compétences en batik comme leur moyen de subsistance, si bien que dans le passé, le travail de faire le batik est un travail exclusif des femmes jusqu'à la découverte de batik cap ou batik tamponné, qui permet l'entrée des hommes dans ce domaine. Batik est l'héritage ancestral indonésien, en particulier en Java, qui existe jusqu'à présent. Batik est aussi introduit pour la première fois dans le monde par le président Suharto, qu'à ce moment-là porta le batik à la conférence des Nations Unies. Depuis ce moment, le batik est connu comme l'un des tissus en provenance d'Indonésie. Depuis que le batik est breveté en 2003, batik Banten a subi un long processus et enfin le batik est reconnu partout dans le monde. Le batik de Banten a 75 motifs, dont 12 motifs sont brevetés. Banten est la première province qui a breveté son batik avec l'objectif de maintenir la richesse de la culture indonésienne pour qu'il ne soit pas volé facilement. Le batik de Banten est breveté après une étude effectuée en Malaisie et à Singapour qui a été suivie par 62 pays dans le monde. Le batik de Banten a le prédicat le meilleur dans le monde entier. Une fois qu'il y a un appel le 5 juin comme la journée du batik du monde, le batik de Banten est le premier qui a un brevet de l'UNESCO. Maintenant, il y a 54 motifs qui ont été enregistrés et ont obtenu une légitimité de la plus haute institution de droit intellectuel en Indonésie. Les conceptions qui sont uniques et belles sont généralement basées sur des objets anciens du sultanat de Banten. Il y a trois différences du batik Banten avec d'autres batiks indonésiens. Le motif, la couleur et le nom du type de motif sont tirés de la philosophie de l'histoire de Banten. Dans chaque motif de Banten, il y a la couleur grise. Tout le batik contient la philosophie. Le batik Banten a les caractéristiques distinctives et uniques car chaque motif raconte l'histoire, provient également de reliques comme la poterie et les nongoyo de Banten comme Arya Mandalika, Sabah Kingking, etc. Sa beauté se reflète immédiatement quand vous voyez ce batik. Chers amis, c'était l'Indonésie Couleur pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même fréquence. À bientôt.
rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Rani, quelle brochure que tu lis?
Eh bien, Andy, je lis les brochures des sites touristiques d'Indonésie. Il s'avère qu'il est amusant et stimulant. Les paysages sont aussi beaux. Dis donc, quel site dois-je choisir?
Pourquoi pas Joglo Semar? C'est abrégé de trois villes à Java, Yogyakarta, Solo et Semarang. Joglo Semar est l'une des 10 destinations touristiques en Indonésie. Ce n'est pas loin de Jakarta et le centre de Java.
Bien, comme ça, je viendrai à Joglo Semar.
Réalisez votre rêve de passer des vacances à Joglo Semar, Indonésie, en participant au quiz international 2017 de la Voix de l'Indonésie. Répondez aux questions suivantes. 1. Mentionnez des programmes de la Voix de l'Indonésie et quel est votre programme préféré? 2. Dans quel langue de programme écoutez-vous la Voix de l'Indonésie? 3. Dans quelle façon écoutez-vous la Voix de l'Indonésie? 4. Donnez des suggestions pour l'amélioration de la Voix de l'Indonésie. 5. Racontez brièvement ce que vous avez à propos de l'Indonésie. Envoyez, s'il vous plaît, vos réponses avec vos données personnelles, le numéro et la date d'expiration de votre passeport à voiinternationalquiz@voi.co.id avant le 1er août 2017. Bienvenue à l'Indonésie.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers amis, voici le programme musical. Et cette fois, nous allons vous présenter des chansons de dangdut chantées par Via Valen. Elle est une chanteuse provenant de la ville de Surabaya, Java Est. Elle a débuté sa carrière à l'âge de 15 ans. On commence notre rencontre d'aujourd'hui en écoutant une chanson qui a été publiée en 2015 intitulée Selingkuh. Bonne écoute.
kau memanggilku. Tiba-tiba kau minta maaf padaku. Aku ingin engkau pergi dalam hidupku tanpa dirimu. Tapi ku tak rela meninggalkan dirimu. Sayang, aku ingin engkau pergi dalam hidupku tanpa dirimu. Tapi ku tak rela meninggalkan dirimu.
Chers auditeurs, voilà une chanson de Via Valen dont le titre est Selingkuh. Bien qu'elle soit une nouvelle chanteuse, mais cette ex-chanteuse du groupe de Wild Boy Syndicate a déjà beaucoup de fans de plusieurs villes. Ses fans sont nommés Vianisti et inaugurés le 24 septembre 2010. Elle a remporté de nombreux prix. L'un des prix qu'elle a gagné, c'est comme une chanteuse de dangdut la plus populaire. Ça a été donné par une télévision privée en Indonésie. Alors, maintenant, écoutons la chanson de Via Valen intitulée « Secawan Madu ». Bonne écoute. Thank you.
Radio République Indonésie, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésie, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonésie, Service International, La Voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'Internet sur www.voi.co.id.
Merci d'être fidèle à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, c'était des chansons indonésiennes. Ainsi se termine l'émission pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt.
Radio République Indonésie, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésie, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15150, 9525 et 11785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésie, Jalan Medan Merdeka Barat 4 et 5, Jakarta. Ou PO Box 1157 Jakarta 2011 Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.